Laurent Dufour, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous décrire la situation à Dnipro, là où vous vous trouvez actuellement? Je le disais, c'est un point de passage pour les populations qui fuient les combats.
Oui, je me trouve à Dnipro, c'est une grande ville de plus d'un million d'habitants. À première vue, si vous arrivez à Dnipro au centre-ville, vous auriez l'impression d'être dans une ville où la vie est normale, les commerces sont ouverts. Les embouteillages sont bien présents aussi, mais ça cache une réalité quand même très différente, notamment le fait que Dnipro était un lieu, est encore un lieu de passage pour des dizaines de milliers, voire peut-être même des centaines de milliers de personnes qui ont fui la guerre à l'est du pays et également dans le sud du pays. C'est aussi un endroit où les personnes, bien sûr, qu'elles soient en route ou qu'elles soient restées sur place, sont également bien sûr touchées par cette guerre, puisque malgré tout, beaucoup d'activités économiques sont au ralenti, notamment des activités commerciales, des activités de transport, des activités qui sont liées bien sûr à la circulation normale des personnes et des biens à travers le pays.
Dans quel état d'esprit se retrouvent ces personnes qui arrivent des zones de combat? Dans quel état d'esprit sont-elles?
On a des situations très contrastées. On a eu une première vague de personnes qui ont pu partir rapidement avec leurs propres véhicules privés, qui rapidement ont pu atteindre des pays voisins, et les chiffres de nombre de réfugiés le montrent. Mais aujourd'hui, depuis environ 2 semaines, les personnes qui arrivent à Dnipro sont certainement beaucoup plus vulnérables, d'origine plus modeste, n'ont pas forcément les moyens de pouvoir continuer leur périple jusqu'à l'ouest de l'Ukraine ou voire même jusqu'en Europe de l'Ouest. Donc on assiste à une population plus vulnérable, plus fragile, qui nécessitera certainement un appui à plus long terme ici, en termes d'appui social, d'appui psychosocial également, car des personnes, bien sûr, sont arrivées de villes, de villages, où la violence a été extrêmement importante.
Alors justement, quel est votre rôle, le rôle d'OCHA sur place? Qu'est-ce que vous apportez comme aide à ces populations?
Alors OCHA, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, a avant tout un rôle d'appuyer la coordination des partenaires humanitaires. Donc nous-mêmes, on n'apporte rien, mais ce sont bien sûr tous les partenaires, les agences du système des Nations Unies, les ONG, national, international, le mouvement de la Croix-Rouge, on s'assure que les ressources disponibles soient utilisées le mieux possible. On appuie également le plaidoyer pour accéder à la plupart des zones où les populations ont besoin d'aide. Et bien sûr, OCHA participe à la mobilisation des ressources en appuyant notamment l'appel d'urgence. Qui est absolument critique pour avoir les ressources, les moyens nécessaires pour atteindre ces populations, qu'elles soient déplacées ou qu'elles soient restées chez elles dans une situation extrêmement dramatique.
Justement, alors comment ça se passe ces négociations pour que l'aide humanitaire puisse s'acheminer dans les endroits où les combats font rage? Comment est-ce que vous faites pour négocier?
Pour les partenaires humanitaires, il est important, bien sûr, de maintenir une position de neutralité vis-à-vis des parties au conflit. Donc, lorsque un convoi, lorsque une équipe humanitaire doit se rendre dans une zone proche d'une ligne de contact, comme on les appelle ici, donc en fait une ligne de front, si vous voulez, nous avons un système qui notifie les deux parties, que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe, de ce déplacement. Et donc ces contacts au plus haut niveau doivent aussi descendre, bien sûr, sur le terrain, au niveau des unités sur le terrain, pour que au checkpoint, au point de contrôle, les militaires, les policiers, la garde territoriale soient au courant de ce déplacement et puissent donc faciliter le passage des équipes humanitaires.
Alors, on avait beaucoup évoqué hein, dans la presse la situation dans des villes comme Mariupol qui sont encerclées, et la population prise en otage. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir des contacts avec cette population?
Pour le cas de Mariupol, c'est très compliqué d'avoir un contact direct puisque le réseau téléphonique ne fonctionne plus. ou alors extrêmement épisodiquement depuis certains endroits de la ville seulement. Mais à travers les réseaux associatifs, la société civile qui est très active, très bien organisée ici, on peut avoir des informations. Et même si on a des grandes difficultés à atteindre certaines localités comme Marioupol, où l'appel lancé la semaine dernière par notre sous-secrétaire général, Martin Griffiths, pour qu'on ait au moins un minimum un cessez-le-feu, une cessation des hostilités temporaires, pour permettre à la fois aux gens de pouvoir sortir en toute sécurité et aux équipes humanitaires d'apporter l'aide qui est absolument nécessaire. Donc très difficile d'avoir bien sûr ces contacts dans certaines villes. Dans d'autres villes, heureusement, la couverture téléphonique est encore bonne.
Alors au début du conflit, hein, l'organisation de couloirs humanitaires semblait très compliquée. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un mieux?
On a encore de grandes difficultés à pouvoir obtenir ce cessez-le-feu temporaire, cette pause, si vous voulez, humanitaire, pour atteindre les zones au-delà de la ligne de front. Des villes comme Marioupol, bien sûr, on en parle beaucoup, mais aussi Kherson, sont des localités qui sont aujourd'hui difficiles d'accès pour les Nations Unies, comme pour les ONG, comme pour les autres partenaires. Certaines associations, avec des véhicules privés, avec des petites camionnettes, parviennent en prenant de grands risques à atteindre ces localités. Mais bien sûr, l'aide qui peut être amenée de cette manière est limitée et ne couvre pas l'ensemble des besoins.
Alors justement, quels sont les principaux besoins de la population? Quels sont les principaux produits dont elle a besoin?
Dans les zones où malheureusement les destructions ont été très importantes, il y a bien sûr un besoin d'abri, un besoin d'articles de ménage, de couverture. Il fait encore froid ici en Ukraine, de couverture, de matelas, de casseroles, d'éléments pour assurer vraiment le minimum de survie, je voudrais dire. Dans d'autres zones, ce sont peut-être plutôt des articles médicaux ou des articles plus spécifiques pour des maladies chroniques, pour le rétablissement d'un réseau d'eau. Donc on a des besoins qui peuvent être un peu différents selon les zones, mais globalement des besoins en médicaments, des besoins en nourriture, en appui aux articles d'hygiène, par exemple, restent extrêmement importants dans la plupart des zones proches des combats.
Alors, Tcha était déjà présent dans le pays avant l'invasion russe en février dernier. Vous avez dû revoir votre organisation dans le pays depuis le début du conflit. Comment ça s'est passé? Vous avez eu beaucoup plus de personnel sur le terrain?
Oui, il y a eu un grand déplacement. Tout le monde est déplacé quelque part, y compris nos équipes, les équipes de OCHAM et des autres partenaires humanitaires. Certains collègues, bien sûr, ont pu se déplacer rapidement, ont pu s'installer temporairement à l'ouest du pays. D'autres sont même partis à l'étranger. Donc on essaie aujourd'hui, bien sûr, de reconstituer ces équipes. On essaie bien sûr d'augmenter la taille d'équipe dans des lieux où auparavant il n'y avait pas du tout de présence humanitaire. Et Dnipro, c'est une ville commerciale où il n'y avait pas d'activité humanitaire en tant que telle dans le passé. Donc, bien sûr, toutes les organisations humanitaires font face au défi de reconstituer les équipes, d'encourager. On ne peut pas forcer les personnes, bien sûr, à aller travailler dans tel ou tel endroit. Il y a des difficultés à trouver des chauffeurs qui acceptent à aller dans des zones à risque élevé. Donc, bien sûr, tout cela est à prendre en compte. On bénéficie aussi, bien sûr, de l'appui d'un nombre important de collègues qui sont venus de l'extérieur en appui d'urgence depuis d'autres pays où il y a des besoins également, mais sont venus temporairement en Ukraine pour appuyer cette réponse humanitaire.
Vous avez expliqué au début de cet entretien votre rôle, hein, de coordination, de toute l'aide humanitaire et de son acheminement. Comment ça se passe justement la coordination avec les autres, organisations humanitaires sur le terrain? Est-ce que la coordination est bonne?
Ici à Dnipro, nous étions peu nombreux au départ, donc quelques partenaires humanitaires début mars. Et ces dernières semaines, d'autres organisations nous ont rejoints. Certaines connaissent très bien le terrain parce qu'elles étaient déjà présentes en Ukraine auparavant. Elles ont encore des équipes sur le terrain. Donc, bien sûr, on a donné la priorité à une coordination locale pour déjà que les personnes se connaissent, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues d'autres contextes, d'autres pays pour appuyer la réponse en Ukraine. Une coordination avec les partenaires ici également. On y travaille et d'ailleurs on a un rendez-vous important demain avec les autorités au niveau des oblasts, hein, c'est l'équivalent des régions ou des départements si vous voulez, pour pouvoir avoir bien sûr le feedback, les messages des autorités qui identifient les besoins, qui peuvent guider bien sûr les partenaires à mener une réponse qui soit à la fois pertinente, appropriée et qui vise ceux qui en ont réellement besoin. Donc, coordination entre partenaires humanitaires, mais bien sûr aussi coordination, consultation avec les autorités à tous les niveaux.
Et au niveau de la coordination entre la base à Genève et à New York, et vous sur le terrain, comment ça se passe concrètement?
On a un appui de collègues à l'extérieur. Ça commence bien sûr par toute la chaîne d'approvisionnement pour les organisations qui font venir de l'aide ici. À travers plusieurs pays, c'est principalement la Pologne, mais également la Moldavie. Je crois qu'il y a aussi des biens qui arrivent de Hongrie. Donc il y a bien sûr plusieurs couloirs d'acheminement de l'aide. Et les organisations sont bien sûr en contact avec leur siège, avec leur centre logistique qui peuvent être à l'extérieur de l'Ukraine pour pouvoir acheminer l'aide nécessaire. Heureusement, on peut encore trouver un certain nombre d'articles d'urgence ici en Ukraine. Une ville comme Dnipro est encore relativement bien approvisionnée. Mais bien sûr, lorsque tout d'un coup des partenaires humanitaires recherchent plusieurs milliers de matelas ou plusieurs centaines de tonnes de viande en conserve, par exemple, vous imaginez que très rapidement, bien sûr, les stocks disparaissent. Et donc, il faut avoir cette chaîne d'approvisionnement en continu.
Alors, depuis le début du conflit, il semble y avoir une grande solidarité internationale. Hein. Les pays se mobilisent et les organisations de la société civile aussi en faveur des populations en Ukraine. Est-ce que vous avez suffisamment de ressources pour mener à bien vos missions humanitaires?
Actuellement, c'est vrai que l'effort est impressionnant. Et l'effort, il est avant tout local, il est avant tout vraiment par les populations, le réseau de volontaires. Ici à Dnipro, nous avons rencontré des femmes, des étudiants qui consacrent presque la totalité de leur temps pour gérer des centres de transit où passent des personnes en déplacement, pour gérer des centres d'accueil, pour renforcer les équipes d'accompagnement psychosocial, par exemple. Donc, il y a un effort considérable qui est mené sur place par les autorités locales, bien sûr, toute l'administration et tous les services, en fait, de l'administration, mais aussi, bien sûr, tous ces réseaux de volontaires et ce réseau associatif. Donc, l'aide qui peut venir de l'extérieur doit vraiment compléter cela et ne pas le perturber. Le renforcer. Les volontaires ne pourront pas rester volontaires pendant des mois et des mois. Il y a un moment donné où ils devront à nouveau retourner à leurs activités normales. Et donc, il faut se préparer à un appui quand même sur la durée, pas seulement sur l'urgence. Ça, c'est très important, bien sûr.
Oui, justement, Laurent Dufoy, ce sera ma dernière question. Il semble que le conflit, selon des observateurs, est amené à durer. Est-ce que vous êtes prêt à faire face à un conflit, de longue durée?
Il ne faut pas oublier que l'Ukraine est dans une situation de conflit depuis 2014. On a quand même cette situation de conflit qui était plus ou moins gelée, mais pas totalement gelée, depuis 2014, dans le Donbass, bien entendu. Donc, pour certaines personnes, ce n'est pas un premier déplacement, c'est un deuxième, voire un troisième déplacement pour ces personnes. Donc, il faut se préparer à ce que des personnes se retrouvent dans une situation de vulnérabilité et perdent leur emploi et ne retrouvent pas forcément un emploi là où elles seront. Et donc de trouver des accompagnements, d'appuyer les programmes de sécurité sociale, d'accompagnement des autorités pour ces personnes, bien entendu. Et ça, ce n'est pas qu'une aide d'urgence, c'est également sur la plus longue durée.
Toute dernière question, Laurent Dufour, qu'est-ce qui vous a amené à être en Ukraine aujourd'hui?
Moi, je suis normalement basé en République centrafricaine, donc c'est également un contexte où il y a des besoins énormes. Très différents, bien entendu, mais deux contextes où malheureusement les populations sont les premières victimes de la violence armée. Et donc, étant disponible pour le groupe, le pool, si vous voulez, de personnes qui peut être déployées, j'ai accepté de venir pour quelques mois ici en Ukraine. Mais on n'oublie pas que d'autres contextes, d'autres pays font face à des situations également dramatiques, bien entendu.